En réalité, son intelligence absolument hors norme, surpuissante, remonte à très loin. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est un don qui lui a été fait. Son père lui-même voit son fils Blaise travailler les mathématiques tout seul dans son coin de manière autodidacte, se trouve totalement ébloui par la puissance de ce génie. Donc ça remonte vraiment à la petite enfance, là il y a quelque chose de mystérieux. Et puis cette intelligence mathématique très très puissante va se développer à la fin de l'adolescence, dès vers 16, 17, 18 ans. Pascal commence à écrire ses premiers traités de mathématiques, de physique, sur la question du vide un peu plus tard. Il sera le premier inventeur de la machine à calculer. Donc d'une certaine manière, Pascal, c'est d'abord un immense génie dans le domaine scientifique, mathématique et géométrique. Voilà. C'est sans doute un don qui lui a été fait, mais il y a aussi une force de travail impressionnante. Et puis, il est habité très tôt, et ça c'est très marquant, par un grand désir de connaître la vérité avec certitude. Et c'est peut-être aussi cela qui fait qu'il redoublera toujours d'efforts pour essayer de découvrir par lui-même ce qui est vrai, pour essayer de distinguer par lui-même le vrai du faux.
Quels sont les grands principes de la philosophie de Blaise Pascal ?
D'abord, il est un lecteur des philosophes. Pascal s'est beaucoup intéressé à l'œuvre des grands philosophes de l'histoire. Et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est que les pensées de ces philosophes étaient souvent très belles, très puissantes, très impressionnantes, mais qu'elles se contredisaient entre elles. Et pourtant, d'une certaine manière, la philosophie a toujours le même objectif, c'est de parler du vrai, c'est d'essayer d'expliquer le monde, c'est de rendre compte du réel. Or, si les philosophies se contredisent entre elles, c'est soit qu'elles se trompent toutes, soit qu'elles disent chacune un petit morceau de la vérité, mais sans réussir à la dire tout entière. Ça caractérise nettement la philosophie de Pascal, c'est que l'homme, par sa raison seule, n'est pas capable d'appréhender une vérité qui est trop grande pour lui. Alors évidemment, il y a des vérités, des morceaux de vérité scientifique, par exemple, dont la raison est capable, dans l'ordre mathématique, mais également dans l'ordre philosophique. Mais quand on se pose les plus grandes questions qui intéressent l'homme, par exemple, la vie éternelle, Dieu, ce que nous faisons ici-bas, le sens de notre destinée, alors la raison seule de l'homme ne peut pas apporter de réponse satisfaisante à cette question, et il va falloir trouver un autre lieu qui permette de répondre à ces questions-là de manière certaine.
Alors, comment la pensée de Blaise Pascal peut-elle aujourd'hui nous aider à affronter la complexité de notre monde ?
Ce qui est très beau dans la pensée de Pascal, c'est d'abord qu'il parle merveilleusement de nous-mêmes. Il parle de la condition humaine comme peu de penseurs en ont parlé avant et après lui. Parce qu'il est capable de dire et de tenir ensemble notre grandeur et notre misère. Ce qu'il reprochait à beaucoup de philosophes, justement, c'est d'avoir soit voulu trop insister sur la grandeur de l'homme d'un côté, ou au contraire, d'avoir une pensée trop tragique et de ne voir que la misère. Pascal dit « l'homme est grand et misérable, grand par sa pensée, grand également parce qu'il est capable de Dieu, mais misérable parce qu'il ne peut pas tout connaître, parce qu'il ne parvient pas au bonheur par lui-même, parce qu'il est faible, parce qu'il est vaniteux, parce qu'il est ridicule, parce qu'il se laisse avoir par son imagination ou le divertissement, etc. Pourquoi est-ce que ça peut nous servir pour notre temps ? D'abord, parce qu'une telle pensée, elle est intemporelle. C'est-à-dire que ça n'est pas une pensée du XVIIe siècle. Un discours sur l'homme qui permet de rendre compte à la fois de nos ridicules, de nos hypocrisies, et puis aussi de notre grande aspiration à la vérité et au bonheur, elle ne varie pas avec les siècles. Par ailleurs, Blaise Pascal nous apporte des clés de lecture très intéressantes du côté de la politique et des questions sociales et même sociétales sur la manière dont nous nous organisons entre nous ici-bas pour vivre tant bien que mal, malgré justement notre faiblesse, malgré nos défauts. Pascal, il est impressionné qu'on ait réussi à créer des sociétés avec un ordre hiérarchique. Il est un bon appui pour nous permettre de comprendre certains grands enjeux de la politique. Il est également extraordinaire dans l'ordre de la philosophie de la connaissance, à une époque qui est la nôtre où par moments nous avons le sentiment que la science va tout résoudre. Pascal, il est aussi très précieux pour nous montrer à quel point la science a des limites objectives et qu'il y a une chimère à croire que notre art scientifique va nous permettre d'avoir raison de tout ou que notre raison va nous permettre de connaître la vérité tout entière. Ce qu'il développe en particulier, hein, c'est l'un des fragments les plus célèbres des pensées, mais sur ce qui est de l'ordre du cœur et de l'ordre de la raison, le cœur et la raison, nous permet justement de marquer avec lui, de reconnaître avec lui humblement les limites de notre raison pour considérer qu'il y a d'autres organes, d'autres moyens de connaissance que la raison seule.
Pourquoi, à un certain moment de sa vie, Blaise Pascal s'est-il tourné vers le jansénisme, courant religieux de son époque ?
Blaise Pascal était à Rouen avec son père en 1646. Son père avait glissé sur une plaque de verglas et s'était démis la jambe. Et deux gentilshommes du coin sont venus assister le père de Pascal, qui était un haut fonctionnaire célèbre du roi. Or, ces deux messieurs, qui étaient un peu soigneurs, dirons-nous, étaient eux-mêmes disciples du jansénisme et de la congrégation de Port-Royal. Et donc, par la présence de ces deux messieurs dans la maison de son père à Rouen, Pascal commence à entendre parler de cette doctrine et en est très intéressé. Et ces messieurs lui donnent des textes à lire. Ensuite, quelques années plus tard, Pascal est rentré à Paris, il a un peu repris une vie mondaine. Et puis, sa sœur, elle, Jacqueline, qui a vécu la même influence que lui, continue à creuser de ce côté-là et elle entre dans les cercles jansénistes. Et en fait, elle va même, in fine, rentrer à Port-Royal comme religieuse. Et donc, c'est sous l'influence de sa sœur Jacqueline que Pascal revient à Port-Royal et donc au jansénisme. Et puis après sa conversion de 1654, sa nuit de feu, sa grande conversion, dirons-nous, il va faire une retraite en janvier à Port-Royal. Et là, il sera très marqué par les rencontres qu'il fait, comme Antoine Arnauld ou Pierre Nicole. Et ce sont ces personnes qui vont l'encourager à les aider dans leur querelle, en particulier contre les jésuites. Et donc, c'est de là que partira l'aventure des provinciales. Parce qu'en fait, ces philosophes jansénistes de Port-Royal, tellement éblouis d'une certaine manière par l'intelligence, mais aussi l'art rhétorique de Pascal, vont lui demander d'être leur porte-plume, pourrait-on dire, pour contrer les jésuites.
Qu'a-t-il apporté à la théologie de son temps ?
Blaise Pascal, déjà, dans sa grande entreprise de défense de la religion chrétienne, pour prouver que la religion chrétienne est aimable, vénérable et désirable, selon ses propres termes, et qu'elle est tout sauf contraire à la raison, ce grand effort qui aboutira à ce que nous appelons aujourd'hui les pensées, mais qui est, nous le savons bien, un texte inachevé, un ensemble de fragments de publications posthumes dont nous ne sommes absolument pas certains de l'ordre, de l'organisation. Mais néanmoins, la grande entreprise des pensées, elle met de côté, et c'est assez original au XVIIe siècle, elle met de côté les preuves métaphysiques, philosophiques de l'existence de Dieu et également les preuves scientifiques. Pascal nous dit, les preuves de la philosophie métaphysique, elles ne nous convainquent pas, elles sont trop désincarnées. On a beau les entendre, une heure après, ça nous semble trop flou et on craint de s'être trompé. Les preuves scientifiques, quant à elles, ne parlent pas du vrai Dieu, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, Jésus-Christ, qui est un Dieu que l'on rencontre personnellement et qui se connaît dans l'ordre du cœur. Et donc, la tentation de prouver Dieu par la science, en réalité, nous conduit à un déisme qui ferait de nous les adorateurs d'un grand architecte, d'un Dieu auteur des vérités géométriques, mais sans nous permettre de rencontrer le vrai Dieu. Et donc, d'une certaine manière, l'apport extraordinaire de Pascal à la philosophie de son temps, alors d'abord, il y a la doctrine des trois ordres, donc l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre du cœur, qui est un monument de la philosophie occidentale, qui nous sert toujours aujourd'hui pour distinguer justement les catégories de ce que nous admirons et de ce dont nous pouvons rendre compte, selon que ça relève du corps, de l'esprit ou du cœur, c'est-à-dire de la charité. Et puis en même temps, il signe l'échec de la philosophie à parvenir seule à un exposé certain de la vérité.
Pourquoi l'Église, qui en son temps s'est montrée prudente, voire critique vis-à-vis des écrits et des découvertes de Blaise Pascal, cherche-t-elle aujourd'hui à le mettre en avant, le pape François ayant écrit cette lettre apostolique par exemple ?
Blaise Pascal n'est pas le seul penseur à avoir été un temps mis de côté ou réservé par l'Église, puis ressorti des cartons, si je puis dire, quelques années ou même quelques siècles plus tard, une fois que l'Église a été capable de reconnaître que sa pensée pouvait nous aider à mieux vivre et même à être de meilleurs chrétiens. Ce que l'Église voit aujourd'hui très urgent dans la pensée de Blaise Pascal, c'est son propos sur la recherche du bonheur. Le pape François, d'ailleurs, dans sa lettre apostolique, parle à deux reprises du vrai bonheur. Et qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur ? C'est une question que tout homme, toute femme de bonne volonté, chrétien ou non, se pose. Et Blaise Pascal, justement, est un bon compagnon, nous dit le pape, pour nous mettre en quête du vrai bonheur. Parce que, contrairement à ce qu'on a voulu parfois laisser entendre, Blaise Pascal n'est pas un penseur tragique. Il reconnaît l'échec de la philosophie, mais il sait aussi que l'homme est capable de vérité et de bonheur, et que cela ne peut passer que par la rencontre de Jésus-Christ. Ce discours, qui à la fois est extrêmement rationnel, parce que nous sommes devant un des esprits les plus rationnels et les plus brillants de l'histoire, et en même temps très hautement spirituel, parce qu'il en va de notre connaissance du Dieu caché, est tout à fait adapté au discours que l'Église doit porter au XXIe siècle.
Vous, Jean de Saint-Chéron, vous avez donc consacré votre dernier ouvrage à Blaise Pascal, et auparavant vous avez écrit un livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'est-ce qui relie Blaise Pascal et Sainte Thérèse ?
Il y a beaucoup de choses qui relient Blaise Pascal et Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, mais si je devais en retenir une seule, ce serait, je crois, un immense désir de bonheur et la découverte du fait que ce bonheur n'est atteignable que dans la mesure où on s'unit au vrai Dieu, qui est Jésus-Christ, qui nous apprend à être humbles et à aimer.